Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau podcast rugby. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en aura plein à venir. L'idée, c'est de vous raconter des histoires, de vous livrer des témoignages, le tout avec l'expertise du service rugby de Canal+. La preuve, à mes côtés aujourd'hui, Eric Bail, le chef du service. Arthur Bourdeau également, journaliste rugby de Canal. Pour ce premier numéro, on est à moins d'une semaine du crunch France-Angleterre, du tournoi Destination. On va s'intéresser au tout nouveau capitaine du 15 de France. Il s'appelle Charles Olivon. C'est une nouveauté. Donc Arthur Bourdeau, vous l'avez rencontré pour réaliser un reportage pour le Canal Rugby Club. On va l'écouter en longueur grâce à vous. Mais d'abord, racontez-nous comment vous l'avez convaincu de se confier aussi longuement.
C'était assez simple. En fait, c'est une relation de confiance à instaurer avec le joueur. C'est quelqu'un qui a été très demandé d'un coup, mais notre force, c'est aussi de l'avoir consulté un petit peu avant. C'est-à-dire que nos premiers contacts datent du mois de novembre. On voulait faire quelque chose avec lui avant, en fait, qu'il soit nommé capitaine. Et ces premiers contacts ont fait que ça a été très facile ensuite par la suite. Quand il a été nommé capitaine, il y a eu un déferlement autour de lui. Il a eu énormément de demandes. Ça a été difficile à gérer. Il nous a confié qu'il avait dit non à beaucoup de gens, qu'il avait surtout donné toutes ses demandes à gérer à d'autres. Et lui, on avait cette force-là d'avoir conversé avec lui depuis le départ. Et donc, d'avoir cet accès à lui un peu privilégié qui nous a permis aussi d'être accueillis par lui, chez lui, à Toulon, dans son domicile, avec en fait pour seule consigne, pour seule demande de ne pas parler forcément que de lui. Il a tout de suite dit « j'aimerais aussi parler de l'équipe de France, des autres, c'est pas forcément quelque chose que j'aimerais... » qui soit que sur moi, ouais. Et c'est aussi à son image et ça place un petit peu le personnage.
Bah c'est vrai qu'on le suit depuis plusieurs mois. Pourquoi ? Parce qu'il a une histoire atypique. Si vous ne le connaissez pas encore très bien, Eric Bail, peut-être vous pouvez nous le présenter en quelques mots, quelques lignes.
Oui, c'est vrai que Charles Olivon a encore besoin de se faire un nom auprès du grand public. Même s'il a disputé la dernière Coupe du Monde, il ne compte que 11 sélections en équipe de France. C'est trop peu pour avoir acquis, on va dire, une notoriété forte au-delà du cercle des grands amateurs de rugby. Mais ça va plus tarder maintenant, évidemment, qu'il se retrouve capitaine des Bleus. Charles Olivon a 26 ans. Il est basque, c'est très important pour lui, et pour d'autres.
Nous aussi.
Voilà, originaire de la petite ville de Saint-Pé-sur-Nivelle, lui il dit Saint-Pé, qui est à une quinzaine de kilomètres de Bayonne. Alors il a curieusement échappé au radar des équipes de France chez les jeunes. Aujourd'hui, il porte les couleurs du rugby club toulonnais, où il joue au poste de troisième ligne. Beau gabarit, c'est logique, à ce poste. 1m99, 108 kilos, c'est quelqu'un... qui en impose, et qui a donc été désigné capitaine du 15 de France, où il succède à Thierry Dussautoir, à Guillaume Guirado, c'est pas rien, Guillaume Guirado qui a occupé ce rôle ces dernières années, qui furent plutôt compliquées pour les Bleus. Alors on lui souhaite d'avoir analysé, en conférence de presse, d'après-match, davantage de victoires que de défaites encourageantes. Défaites encourageantes, c'est un petit peu l'expression consacrée ces dernières saisons pour commenter les matchs de l'équipe de France, des matchs que l'équipe de France aurait dû gagner, mais que finalement, elle avait perdu.
En sélection, c'est vrai que c'est très peu, vu le talent. On va vite comprendre pourquoi, puisqu'il a vraiment eu un parcours compliqué, avec beaucoup de blessures. Mais avant, puisque vous êtes allé le rencontrer à Toulon, certes, mais pas que, vous avez été aussi du côté du Pays Basque. Vous allez nous raconter un petit peu son enfance, comment il a connu le rugby, comment il l'a découvert. On va l'écouter là-dessus et on en parle après.
Depuis tout petit, c'est vrai que voilà, on n'a pas tellement ni réfléchi ni eu le choix. C'était le rugby, ça a été assez instinctif. Et moi, j'ai un petit peu suivi mon grand frère qui était à l'école de rugby à SMP, qui a 3 ans de plus que moi. Donc voilà, il n'y avait pas tellement d'équipe tellement j'étais jeune. Je ne sais pas si j'avais 3-4 ans, par là à peu près. Et donc mon frère jouait avec les mini-poussins, donc moi je venais... je suivais tout le monde et puis je commençais petit à petit à essayer de jouer avec eux parce que j'étais tout seul et donc voilà, j'ai commencé très tôt et voilà, ça a été tout naturel d'aller vers le rugby quoi.
Partager aussi, je crois, le jardin avec une autre fratrie.
Tout gosse, ouais, depuis tout petit à ces âges-là, c'est vrai qu'on allait au stade. Lundi, mardi, on allait à l'école ensemble. Mercredi, il y avait catéchisme, on se retrouvait pour faire les camps. Le jeudi, vendredi, on allait à l'école. Le samedi, on avait l'école de rugby. Et le dimanche, on allait voir la première. Donc c'était assez rythmé et c'était comme ça depuis longtemps. Donc c'est vrai que c'est des bons souvenirs et on a bien rigolé, ouais.
Tu racontais aussi que ton père t'emmenait à la rune pour travailler ton explosivité et te faisait faire des sprints et le premier kilomètre de la rune. C'est vrai ou quoi ?
Alors, c'est pas tout à fait vrai. On partait souvent à la rune, c'est vrai. On l'a monté tranquillement. C'était pas tellement pour travailler l'explosivité, non. C'était juste qu'arrivé au sommet, en fait, il y a une pente qui est très, très raide. Et on était déjà bien fatigués, que ce soit mon père ou mon frère. Et quand on voyait la dernière côte, il fallait qu'on finisse premier. C'était pas possible autrement. Donc du coup, on s'énervait les uns en face des autres. Et donc on sprintait comme des ânes au possible pour terminer en haut le premier. Et aller manger l'omelette à la Benta qui était en haut. Quoi.
Ton père était dans le rugby en fait. C'est ça,
ouais, c'est vrai. Bah, il a joué au village. Après avoir joué, il a un petit peu entraîné. Et puis voilà, on était là. Quoi.
T'arrives vite à Bayonne en cadet.
En cadet deuxième année, ouais.
En cadet. Pourquoi là, c'était une progression naturelle en fait. C'était pour le club de la région. Tu joues à Biarritz aussi.
J'aurais pu jouer à Biarritz, mais enfin j'aurais pu, je sais pas si j'aurais pu, mais dans tous les cas ça a été naturel. C'est vrai que j'avais des copains qui allaient à Bayonne et puis le premier club à m'avoir appelé c'était Bayonne. Dans les sélections un petit peu c'était minime. Quand on était vraiment très jeune, c'est vrai que j'avais pu échanger avec certains collègues que j'avais à Bayonne, comme Kevin Etcheverry, Bastien Dual, enfin tout ça. On était un groupe de la même génération et puis au final ça s'est fait tout simplement et je suis arrivé là-bas. C'était un petit peu le grand saut pour moi à l'époque et j'en ai que des bons souvenirs.
Et en fait, tu vas assez vite faire ton premier match en 2013 avec une magnifique coupe de cheveux.
Ouais. On n'a pas eu trop le choix. C'était un petit peu le dépucelage avec David Roumieux qui tenait ça d'une main de maître. On a subi le truc. Il y avait Anto Etriard aussi. Et en fait, ils devaient nous raser la tête en nous faisant un petit peu des saloperies. Donc du coup, ça a été fait. Et puis juste avant le match, on avait une tondeuse avec Anto. Donc je le rase pour que ce soit un petit peu correct, quoi. Je le rase et puis arrivé au moment de passer à moi, il n'y avait plus de batterie. Donc du coup, j'ai dû me traîner ça jusqu'au match. Et voilà, aujourd'hui, c'est... Je me rappellerai tout le temps de ce match-là. On était rentré en deuxième mi-temps, on avait perdu ce match d'ailleurs. Et ouais, c'était la première, quoi. Donc forcément, c'était un moment important, un moment fort.
Il y avait de la pression. Tu sentais un peu de pression autour de toi parce qu'en fait, on a vite parlé de toi comme un futur talent.
Non, non, pas forcément. J'étais avec mes amis, mes collègues. Comme je te disais avant, on avait un bon groupe. On avait un bon groupe de jeunes à Bayonne. Beaucoup de talent. On a été champions en Réchelle. On avait une super équipe. Avec un bon esprit aussi. On était un bon groupe de potes. Et d'ailleurs, il y en a pas mal qui ont fini par être professionnels. Tout simplement, que ce soit à Bayonne ou dans d'autres clubs. Et c'est vrai que c'était des bons moments. On ne s'en rend pas forcément compte sur le moment parce qu'on fait les choses avec un but précis, mais au final, on avait une super équipe et il en reste pas mal de choses. Ouais.
Et malgré tout, vous descendez avec cette super équipe.
Ouais, la troisième année, ouais.
Ça te stresse un peu en travers de la gorge et tu mets un peu le rétroviseur sur ta carrière. C'est un souvenir toujours douloureux ou finalement, c'est une idée de Liban?
Ça a été un petit peu spécial parce qu'il y a eu un contexte. La première année, ça passe bien. La deuxième année, on se maintient aussi. La troisième, alors qu'on fait quand même une belle saison, je crois qu'on a fini à 53 points. Le maintien n'avait jamais été aussi compliqué à obtenir parce que je crois que c'était le record de points pour se maintenir. Et au final d'une belle saison, voilà, ça finit mal. Quelques jours on est avant la fin de la saison, il y a des rumeurs de fusion. Le club parle en tous les sens. les supporters, voilà, il y avait des manifestations, c'était très compliqué. Et au moment où moi j'avais décidé de me réengager à Bayonne, et d'y rester plus longtemps, et puis il se passe ça. Et au final, c'était la fusion. Donc moi, c'est vrai que j'ai eu cette opportunité de partir à Toulon. Et puis au final, j'ai pris la meilleure décision que j'avais à prendre. Et donc aujourd'hui, je regrette rien, mais absolument rien. Mais c'est vrai que c'est quand même c'est pas un super souvenir de la manière dont ça s'est terminé. Je me rappelle encore signé pour Toulon et quelques heures avant entendre que voilà que le club de Bayonne est mort, que le club de Biarritz est mort, que c'est la fusion. Enfin voilà, c'était un moment un petit peu particulier, pas super sympa, mais à la fois c'est le début d'une super aventure à Toulon, donc il y a les deux côtés quoi.
Le début d'une super aventure à Toulon et avec les Bleus quelques mois plus tard, mais aussi le début d'un long chemin de croix. Alors avant de parler de ces blessures, d'ailleurs, on va revenir sur cette enfance et ce parcours au Pays Basque. Vous êtes allé là-bas à la rencontre des gens qui l'ont très bien connu. Qu'est-ce qu'il représentait ou qu'est-ce qu'il représente encore d'ailleurs là-bas ?
Et lui, déjà, on l'entend facilement à son accent, c'est quelqu'un qui a le Pays Basque chevillé au corps. C'est quelqu'un qui est très fier de ses racines. Et le Pays Basque lui rend bien, là où il a grandi. Les gens sont très attachés à lui, très attachés à sa famille avec son père et sa maman qui l'accompagnaient, qui accompagnaient lui et son grand frère dans les catégories de jeunes, en fait, ont formé un petit cocon. Et quand on retourne dans ce club de Saint-Pé-sur-Nivelle, dans ce clubhouse un petit peu bucolique, clubhouse d'un autre temps, on voit des photos de lui au mur et les gens que l'on rencontre, le président actuel, son premier éducateur, sont extrêmement fiers en fait de raconter Charles Olivon comment il était quand il était tout petit, pourquoi il ne faisait pas beaucoup de passes parce qu'il avait un gabarit qui était supérieur à la moyenne et donc il ne se servait que de sa force et de sa puissance et donc il a fallu lui apprendre le rugby. Mais on sent des yeux qui pétillent quand ces gens-là nous racontent le Charles Olivon enfant puis le Charles Olivon adolescent qui, par ses qualités rugby, va ensuite s'imposer à Bayonne, à quelques kilomètres finalement de Saint-Pé.
Il y a un côté rafraîchissant dans ses propos. C'est pas très original pour un joueur de rugby. C'est l'histoire classique d'un enfant qui suit la tradition familiale, qui vient au rugby par ses parents, ses copains, ses frères. Et on sent qu'il respire ce rugby de tradition locale, qu'il est attaché à son pays, pas qu'au rugby d'ailleurs, il faut savoir qu'il a été un grand supporter de la Real Sociedad de Saint-Sébastien, le club dans lequel a joué Antoine Griezmann et qui porte les mêmes couleurs ciel et blanc que l'aviron bayonnais. Donc voilà, c'est la tradition locale qui cimente un petit peu le rugby depuis des générations. Et puis, il a été marqué.
Et oui, par cette histoire de fusion, parce que c'est la fin de l'histoire avec Bayonne. Alors évidemment, la fin de l'histoire de rugby, parce qu'il est toujours très attaché. Elle se fait sur un contexte particulier. Il y a la descente, mais il n'y a pas que ça. Il y a cette histoire de fusion qui a mis un peu le bazar dans ton Pays Basque.
Ah oui, qui a vraiment fait beaucoup parler, jaser dans tout le Pays Basque. La fusion, on rappelle, entre l'aviron bayonnais et le Biarritz Olympique, les deux équipes en difficulté à l'époque, qui a créé des manifestations, une mobilisation des supporters des deux camps d'ailleurs, absolument monstrueuse. Et on sent que ce contexte, alors qu'il avait prolongé à l'aviron bayonnais, ce contexte d'incertitude l'a poussé à signer à Toulon. Ensuite, pour la vérité de sa carrière, c'était évidemment un très grand choix, puisque ça lui a permis de continuer à évoluer au plus haut niveau dans le top 14, ou même en Coupe d'Europe, et de faire de lui un candidat plus que potentiel à l'équipe de France. Il était déjà international, hein, mais ça lui a permis d'acquérir un niveau supplémentaire.
C'est vrai que la fabuleuse histoire de Charles Olivon et ce très beau parcours, il continue à Toulon. Il s'impose très très vite, en quelques matchs à peine. Mais cette belle histoire, elle connaît un véritable coup d'arrêt début 2017. Une blessure qui va tout changer. Alors, on va dire que dans le rugby, des blessures, il y en a, c'est classique. Mais la sienne, elle a failli mettre un terme définitif à sa carrière. Près de 2 ans de galère qu'il a accepté de vous raconter, Arthur.
Un championnat contre Castres, ouais, c'est un petit peu le... Ouais, c'est le début de la galère, on va dire, parce que c'est la première fracture. Et à partir de là, je plonge déjà un peu dans le doute, parce qu'en face de moi, j'ai pas trop de réponses. J'ai beaucoup d'incertitudes et pas trop de réponses. Donc à partir de là, c'est vrai que ça a été compliqué, c'est le début de la galère. Ouais.
Et pourtant, tu rejoues, puisque c'est en amical, la même année, hein, 4 mois plus tard, que là, par contre, ça pète. Mais parce qu'on t'avait pas alerté, parce que tu savais pas ce que c'était.
Parce que je savais très bien ce que c'était au final. C'était assez simple. C'était une fracture d'omoplate, mais vu la réaction un petit peu des médecins et du corps médical, de l'incertitude face à ce type de blessure, eh bien, voilà, on a pris la décision de tester un retour sans opérer et laisser consolider naturellement. Sauf qu'au premier contact, ça a lâché. Donc après, ça a encore été plus compliqué de se dire que la solution sans opérer, elle était pas possible, vu qu'au premier contact, ça a lâché. Donc il a fallu chercher et trouver une autre solution.
Je passe assez vite, du coup, on va aller jusqu'à la troisième, puisque de toute façon, ça va être quasiment deux ans de galère.
Ouais.
Est-ce que dans ces moments-là, toi, quand tu le vis, tu te dis c'est la malchance, pourquoi moi, pourquoi le sort s'acharne, ou au contraire, tu vas regarder de l'avant parce que tu dis qu'il y a plus grave dans la vie comment tu le vis?
Je vais pas toujours de l'avant, non. Je vais pas toujours de l'avant. Je vais pas toujours de l'avant parce que il y a eu une répétition de galères, que ce soit sur le terrain, que ce soit en dehors aussi, parce qu'il en a découlé des problèmes, pas mal de problèmes extérieurs au rugby en lui-même. Donc c'est vrai que j'étais pas forcément positif dans ces galères. Je voyais pas forcément qu'il y avait pire que moi. C'est pas facile de se dire que, de positiver quoi, quand on a un problème qui nous touche. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai pas lâché, j'ai cherché, j'ai bataillé. J'ai pris des risques aussi, hein. J'en suis bien conscient. J'avais pas le choix de les prendre ou pas. Mais parce que les opérations que j'ai subies, elles auraient pu m'handicaper sur le long terme. Donc voilà, mais j'ai pris le risque et j'ai aucun regret, forcément.
Dans quoi on trouve du réconfort?
Dans pas grand-chose. Là, du réconfort... Dans les gens qui vous lâchent pas, on dira. Voilà, c'est le seul réconfort qu'on peut trouver. Dans les gens qui vous lâchent pas, que vous sentez qu'ils sont prêts à aller au bout avec vous, même si ça doit être encore plus grave que ça ne l'est déjà. Et dans les gens qui essayent de vous donner un petit peu de réconfort et que vous sentez présent, quoi. Parce que forcément, il y a eu beaucoup de ménage autour de moi, ça n'a pas été facile. Mais comme je l'ai dit, j'ai pas tellement de colère, j'ai pas de rancœur ni rien de tout ça. Mais c'est vrai que le seul réconfort qu'on a, c'est dans les gens qui vous lâchent pas. Et il n'y en a pas beaucoup.
Tu as cherché à en parler à d'autres sportifs, peut-être, ou d'autres rugbymen, je sais pas qui est.
Vincent Clerc, j'en ai parlé un petit peu avec lui, en plein cœur du problème. Vincent, qui est quelqu'un de génial, et j'en ai pas beaucoup parlé avec lui, mais j'en ai parlé peu. Et ça m'a servi, parce qu'il a connu beaucoup de galères aussi, Vincent, et il en est toujours revenu. Et il est revenu, il a réussi à battre le record d'essai. Enfin, c'est vrai que ça a été un petit peu une source aussi de motivation pour moi. J'ai plein d'exemples de joueurs qui se sont blessés et qui sont revenus. Il y a François Trinduc qui était au club pendant que je galérais. Il s'est blessé, il est revenu, il s'est blessé, il est revenu. Et voilà, il y a tellement d'exemples qu'on peut donner. Donc voilà, j'ai bien compris qu'il fallait s'inspirer de tous ces mecs-là qui ont galéré et puis voilà, que ça allait finir par sourire.
Quand tu dis tout à l'heure, j'ai cherché une solution, j'ai fini par trouver, c'est un trait de ton caractère, de base qui est têtu.
Ah ouais, ben là il fallait être têtu, mais jusqu'à la connerie quoi, pour trouver, parce que c'était long au final. On parle d'avril 2017 jusqu'à mars 2019. Et c'est vrai que la première solution, j'ai mis 4-5 mois à la trouver. Mais 4-5 mois, quand t'es blessé et tu reviens, ça va. Quand t'es blessé et tu rejoues à 5 mois, ça va. Mais 4-5 mois, du moment où t'es blessé, à trouver une solution, c'est interminable. C'est interminable. Parce que tu sais pas. Tu sais pas qu'est-ce que tu peux faire. T'as aucune solution parce que personne t'en donne. Et donc, honnêtement, pendant 5 mois, c'est une fin de carrière. Il n'y a pas de solution pour rejouer, donc... Puis c'est long, 5 mois. Même 4 mois, c'est très long. En te disant, ben, j'ai pas de solution, je vais plus au stade, je vais plus m'entraîner parce que je suis pas apte, je travaille plus parce que je suis pas apte, il me faut une solution pour rejouer, pour retravailler, mais j'en ai pas. Et je prends des gifles à chaque fois que j'ai fait un rendez-vous. Donc ça, c'était très long et très ingrat.
C'est toi qui le trouves, le chirurgien qui finit par t'opérer, ou c'est lui qui, en fait, on entend parler de...
Non, c'est moi qui le trouve, c'est moi qui le trouve.
Tu démarches le chirurgien?
Ouais, je démarche, on m'a un petit peu aidé sur la fin, mais c'est moi qui le trouve.
Et ça t'aide, en fait, à peut-être ne pas déprimer, à avoir justement ça?
Du moment où je le rencontre, c'est un soulagement. C'est un soulagement parce que je passe de, d'être tout seul, mais vraiment tout seul pour le coup, à un mec qui peut-être va me remettre sur pied. Donc même si il peut pas m'opérer de suite, parce qu'il y a tellement de choses à préparer pour l'opération qui est un petit peu complexe, que peu importe en fait, peu importe le temps que je dois mettre, j'ai quelqu'un avec moi. Et ça, ça a été important.
Tu te rappelles du coup du premier match que tu as rejoué ?
Oui, ah oui, oui, je me rappelle. Je me rappelle bien même. C'était Montpellier, c'était à Mayol. Patrice m'avait un petit peu protégé. Et au final, j'ai réussi à rentrer dedans sans trop me poser de questions. Parce qu'il n'y avait pas trop d'attentes autour de moi. Et ça m'a permis un petit peu de faire mes débuts du reste de la carrière. Un petit peu sans trop réfléchir, en étant un petit peu tranquille de mon côté, sans faire trop de bruit, donc c'était cool. C'était de l'euphorie, quoi, parce que j'étais tellement tombé bas qu'après, quand vous regoutez à tout ça, c'est génial. C'est génial et on n'apprécie pas assez tous les bons moments que c'est au quotidien. Parce que c'est notre travail, parce qu'il y a plein de choses autour, pour plein de raisons. Mais il faut prendre du plaisir, parce que ça va vite, quoi. Et puis ça peut s'arrêter à n'importe quel moment.
Quelle force de caractère, on parle souvent de la force basque. C'est incroyable parce qu'on sent qu'il a quand même le sourire alors qu'il a vécu un cauchemar fou. 2 ans, c'est énorme dans une carrière de joueur. Comment il vous raconte ça ? Dans quel état il est quand il parle de tout ça ?
Mais on sent déjà que c'est quelqu'un qui a changé d'une part son approche du rugby, mais d'autre part sa philosophie en fait, de vie générale par rapport à ce coup dur qui l'a marqué. Il prend les choses, il le dit un peu à la fin un peu différemment, il se rend compte de la chance qu'il a d'être sur un terrain de rugby, d'en profiter avec ses copains. C'est vrai que c'est des gens maintenant aujourd'hui qui parlent souvent de travail, et lui il a complètement oublié cette notion-là de travail, parce qu'il est passé tout près de perdre sa passion. Et surtout, on oublie un petit peu vite que c'était un gamin qui avait 24 ans quand il se blesse la première fois.
C'est très jeune.
Mmh. Il avait, on lui a annoncé une carrière magnifique. Il était déjà international. Il était dans les petits papiers du 15 de France. Il était en train de s'imposer à Toulon dans un effectif avec des Douanet Vermeulen, des Stéphane Armitage, des Fernandez Lobé. Il y avait une troisième ligne de rêve et lui, il était en train de faire son trou dans cet effectif-là. Et d'un coup, tout s'arrête. Il se retrouve un petit peu seul et il dit, et il le concède que en fait le plus dur c'était un petit peu la solitude de la blessure, la solitude de l'homme blessé qui se retrouve sans personne autour de lui, qui ne peut plus aller au club, qui voit ses amis s'éloigner un petit peu au fur et à mesure que sa blessure dure, et c'est ça qu'il a eu le plus de mal à vivre, et c'est aussi ça qui a forgé son caractère. C'est quelqu'un qui est revenu d'un peu nulle part.
Il y a des joueurs qui ne reviennent jamais à cause de cette solitude, ça peut les enterrer. Et lui, c'est assez fou ce qu'il dit d'ailleurs, têtu jusqu'à la connerie, hein, ça nous a fait sourire. Il est incroyable.
Ouais, elle est forte cette interview, elle est forte parce qu'on arrive à imaginer ce qu'il a vécu, même si son caractère fait qu'il est pudique. Quand il dit « je ne vais pas toujours de l'avant » à ce moment-là, ça signifie qu'en fait il va vers l'arrière, qu'il a perdu le moral, qu'il croit vraiment... pendant ces 5 mois, que sa carrière, qui était en train de prendre une tournure de niveau international, va vraiment s'arrêter. Donc 25 ans ce matin, seulement quand on entend parler de fin de carrière, qu'on ne trouve pas de chirurgien qui accepte de l'opérer, il en a vu beaucoup, les chirurgiens ont refusé de l'opérer, il insiste, il se relève, il se relance, et il retrouve son niveau en club. Il est appelé ensuite, on va en parler, à la Coupe du Monde. Enfin, je veux dire, il a là démontré une force de caractère exceptionnelle qui a probablement dû compter aussi dans le fait qu'aujourd'hui on en parle parce qu'il est le nouveau capitaine de l'équipe de France.
Mais le chemin est fou et magnifique. D'ailleurs, c'est une très belle histoire. Alors, on parle de ce retour en bleu. Il revient pour la Coupe du Monde 2019. En tant que réserviste, on se dit tous, bon, il est là parce que c'est un peu un joueur courage, il va faire du bien à l'équipe, mais il ne va pas jouer. On n'arrive pas à se dire qu'il va jouer, s'imposer si vite. Eh bien, si. Eh bien, même ça, cette annonce de cette sélection pour le Japon, il vous l'a raconté. On retrouve le sourire, là.
J'avais zéro pression par rapport à ça parce que ça pouvait être que du positif. Au pire, j'étais pas pris et puis voilà, j'allais continuer à me régaler comme je le faisais. Et puis au final, voilà, je suis pris dans les réservistes. Voilà, c'est une super nouvelle. Et puis, je me suis encore jeté là-dedans sans trop de questions, avec beaucoup d'envie, quoi, tout simplement.
L'annonce que de la liste que tu regardes tout seul chez toi, c'est que tu as envie d'être seul à ce moment-là ou c'est le hasard ?
Non, c'est pas le hasard. C'est que j'avais envie d'être seul, voilà, c'est tout. J'ai pas envie d'en parler plus que ça, mais j'avais besoin d'être seul et c'était très bien comme ça.
de passer de réserviste à évidemment valider son ticket au Japon. C'est encore dans ta carrière un peu accidentée, c'est encore un nouvel événement où finalement bah, t'es pas censé y être, puis tu y vas.
Ouais, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de choses, ça a été une préparation un petit peu compliquée, difficile, et ça nous a un petit peu testé pour voir jusqu'où on pouvait aller. C'était très enrichissant comme expérience. On avait un bon groupe, voilà, c'est la chose que j'ai envie de dire en premier. On avait un super groupe et moi je trouve que c'est tellement important d'avoir des mecs avec qui tu te régales, quoi, tout simplement au quotidien. Et c'est ce qui a permis que... Je me sente bien là-dedans et puis je suis content parce qu'au final on a réussi à créer quelque chose. On n'a peut-être pas été jusqu'au bout, mais il en est vraiment ressorti une équipe, on a vraiment créé quelque chose et voilà, et je retiens que ça au final, l'expérience qu'on a vécue ensemble. On n'a pas tout réussi, mais on a réussi quand même quelque chose. Et voilà, et notre parcours aussi de voir perdre le... Enfin, tout le monde nous annonçait perdant le premier match, on arrive à le prendre et au final on se qualifie. Enfin voilà, c'était des moments un peu particuliers et je retiendrai que ça, quoi. L'esprit qu'on avait entre nous et le groupe qu'on a créé.
Et c'est facile à digérer. Un sas de 3 mois où tu es avec les mêmes mecs, tu découvres des choses...
4 mois et demi.
4 mois et demi, je dis 3 mois, c'est vrai que la préparation a commencé de...
Ouais, ouais.
Et en fait, tu partages des choses qu'avec eux presque. Tu, ouais. Tu es en vase clos avec des souvenirs incroyables.
Ouais.
Après, il faut digérer, c'est dur.
C'est dur, je peux pas dire que c'est dur. C'est que du positif. C'était que des bons moments. Et puis après, tu rentres à la maison. Et puis tu retrouves un autre groupe, d'autres joueurs. C'est vrai que tu as toujours un petit peu la tête avec les mecs avec qui tu as vécu jour et nuit pendant 4 mois et demi. Mais voilà, j'avais aussi envie de retrouver le club, les copains d'ici. Et puis voilà, et puis après tu te remets dans le bain. Et puis il y a des matchs tous les week-ends. Et puis tu renchaînes. Et puis voilà, le quotidien est reparti. Et puis voilà, et puis toujours autant de plaisir avec Toulon.
Beaucoup d'humilité, on rappelle. 8 matchs seulement après 2 ans de galère. Il est donc appelé dans les réservistes, il est finalement du voyage pour le Japon, il devient titulaire indiscutable. Comment il s'est imposé aussi vite ?
Oui, c'est une bonne question. C'est très fort en tout cas ce qu'il a réussi à faire. C'est vrai qu'en un si petit nombre de matchs, d'arriver, de passer à quelqu'un qui était perdu pour le rugby, à un titulaire du 15 de France, faudrait poser la question
en
Coupe du Monde. Faudrait poser la question
à
Jacques Bonnel ou à Eric.
Ce sont tout simplement ses qualités de joueur. Hein. Donc, Olivon, c'est quoi ? C'est d'abord un très bon joueur de rugby, qualité technique au-dessus de la moyenne, dont certaines, son adresse notamment, viennent de sa pratique de la pelote basque lorsqu'il était jeune. Il n'est pas le seul dans ce cas-là, mais il s'en sert. Très bon manieur de ballon. Donc c'est quelqu'un qui est parfaitement dans l'illustration du rugby français tel qu'on le rêve. Mm-hmm. Un bon joueur de ballon. Il sait attraper les ballons, il sait faire des passes. Qualité technique. Et puis qualité physique. On a parlé de son gabarit. Puissant, mobile, bon défenseur, bon plaqueur. Il est grand, il est aussi excellent en touche, parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose. Pour être capitaine d'une équipe, il faut être indiscutable dans cette équipe. C'est-à-dire qu'il faut être assuré d'être titulaire. Et aujourd'hui, dans l'esprit de Fabien Galthié et de son staff, et ce fut le cas sur la fin de la Coupe du Monde aussi, avec l'époque Jacques Brunel, Charles Olivon est un titulaire indiscutable de la troisième ligne de l'équipe de France.
Et je pense qu'il y a aussi une question d'état d'esprit. Quand on prend Charles Olivon dans la liste, au départ la liste élargie, puisqu'il n'est que réserviste hein, dans la première liste de Jacques Brunel, on se dit aussi qu'on emmène quelqu'un qui est mort de faim, qui a un état d'esprit très particulier par rapport à d'autres, puisque comme il ne revient de nulle part et puis qu'il ne s'attendait pas forcément à être là, il va peut-être emmener avec lui un groupe par un état d'esprit très particulier, ce qu'on a pu un petit peu percevoir dans ses propos. Et je pense que ça peut être important pour un sélectionneur et pour un groupe d'avoir quelqu'un comme ça, et il a amené ça avec lui au Japon.
Et donc il devient indiscutable au point donc que Fabien Galthié l'appelle il y a quelques semaines pour lui faire ce très beau cadeau, donc cette annonce, il devient, c'est officiel, le nouveau capitaine des Bleus. On l'écoute.
En fait, il y avait Fabien qui m'avait appelé un petit peu avant pour me parler d'un groupe de leaders. Et donc voilà, ça en était resté là. Et puis ensuite, voilà, il m'appelle et puis il me le dit. Donc sur le moment, c'est vrai que ça fait prendre beaucoup de recul. Et puis je me suis aussi dit que, tout simplement, il y a beaucoup d'autres joueurs qui étaient des leaders... Pendant la Coupe du Monde qui aurait pu l'être, voilà, il faut être assez humble par rapport à ça, parce que Parce que voilà, ça me paraît logique de dire ça. Et au final, c'est tombé sur moi pour le prochain tournoi Destination. Donc voilà, on va tout faire pour. Mais forcément, ça a été beaucoup de bonheur quand même sur le moment, quoi.
Qu'est-ce que ça incarne pour toi, capitaine de l'équipe de France, quand on voit les grands noms qui sont passés par...
Qu'est-ce que ça incarne ? Ça veut dire beaucoup de choses quand même. Beaucoup de responsabilités aussi. Mais j'ai envie un petit peu de pas trop me mettre de pression sur moi. J'ai simplement envie de faire la même chose qu'on a fait pendant la Coupe du Monde, en fait. Pas se prendre la tête, bien vivre entre nous, s'amuser, créer quelque chose, continuer de créer quelque chose. Puis les choses, elles devraient arriver d'elles-mêmes, quoi. Parce que ça marche quand on s'apprécie entre nous. Et je suis pas inquiet si on vit bien entre nous et qu'on s'apprécie comme on l'a fait pendant la Coupe du Monde. Je suis pas trop inquiet.
Et justement, tu parles beaucoup des autres et on n'a pas l'impression que ce soit forcément un piège dans lequel tu vas tomber, mais on se dit des fois, je peux peut-être prendre la grosse tête ou t'as ouais. Ce goût-là.
Je peux prendre la grosse tête, j'assume, mais je suis, alors si vous saviez, comme je suis pas inquiet sur ça, alors là, je suis vraiment pas inquiet sur ça. Je sais que je serai critiqué, je sais que les gens peut-être le diront, je sais que voilà, qu'à un moment donné, je serai forcément critiqué sur tout et sur rien, sur des choses vraies, sur des choses fausses, mais alors ça m'inquiète pas du tout, mais pas du tout. Je sais que je resterai le même. Demandez un petit peu aux gens qui me connaissent depuis quelques temps ou depuis plusieurs années. Je serai le même, quoi, tout simplement. Je suis pas inquiet.
Quand on passe tout près de... Enfin, tout près d'ailleurs ou pas, mais d'une fin de carrière, en tout cas, quand c'est...
Et ouais.
Quand les gens le disent, ça en rappelle maintenant.
Et oui, non, mais je te disais ça, que je suis pas inquiet sur le truc de prendre la grosse tête. Je sais d'où je viens, donc à un moment donné... Enfin, je pourrais pas prendre la grosse tête. Je sais très bien qu'à n'importe quel moment, ça peut s'arrêter pour moi. Donc, à un moment donné, si je prends la grosse tête, je vais le payer à un moment donné. Je le sais très bien. Non, ça arrivera pas. Je sais d'où je viens. Je sais que ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas envie de me poser trop de questions. C'est pour ça que j'ai ce discours-là. Parce que j'ai bien compris que la carrière, c'est beau, c'est tout ce que tu veux, mais... Mais à n'importe quel moment, ça peut s'arrêter alors que tu t'y attends pas, que tu te dis que ça peut arriver aux autres, mais jamais à toi. Et puis au final, un jour, ça te tape dessus. Et puis voilà, donc il y a le rugby, après il y a la côté, il y a la vie. Et voilà, faut bien avoir les pieds sur terre parce que sinon, tu descends de très très haut.
Rugbystiquement, pour finir, qu'est-ce qu'on peut souhaiter ? Bah, d'abord à toi, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à toi rugbystiquement ? Je parle du coup pas de la vie. Parce que...
Du plaisir. Du plaisir et d'être avec des mecs avec qui on se régale, avec qui on se bat les uns pour les autres, on se sacrifie les uns pour les autres et puis que du bonheur, quoi, que des choses simples, surtout des choses simples et du plaisir.
Et l'équipe de France, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter, qui a mangé un peu son pain noir pendant...
Des victoires, des victoires, rien d'autre.
On le souhaite, évidemment. Thierry Dussautoir, notre nouveau consultant sur le Canal Rugby Club, était dithyrambique. Alors lui qui est le recordman de capitaine en équipe de France, dithyrambique sur Charles Olivon. Est-ce que ça va en faire un bon capitaine ?
Bon, en tout cas, Charles Olivon, capitaine du 15 de France, on va dire que c'est le premier choix fort du nouveau sélectionneur Fabien Galthié. Donc il occupe ce poste de troisième ligne comme Thierry Dussautoir, qui convient très bien à un rôle de capitaine. Il est mieux placé qu'un pilier... qu'un talonneur comme l'était Guirado, qui a quand même été évidemment un capitaine remarquable, ou en deuxième ligne comme a pu l'être Fabien Pelous, sont des joueurs qui ont la tête dans le combat, un peu parfois le nez au ras du gazon. Le troisième ligne, lui, c'est plus en lien entre avant et trois quarts, donc c'est un poste. Et puis après, c'est l'homme. L'homme, c'est un basque, on l'a vu, un homme de peu de mots, qui parle peu, mais qui parle pas pour rien dire, caractère bien trempé. Et puis, moi, je trouve qu'il a du charisme, parce qu'il faut du charisme pour cette tâche de capitaine, charisme qu'il va exercer auprès de ses partenaires, et aussi, c'est important, parce que l'équipe de France en a besoin, charisme qu'il va pouvoir exercer vers l'extérieur, vers les supporters, et évidemment aussi vers les médias.
Alors, il a beaucoup parlé, évidemment, à votre micro, Arthur. Est-ce que ce rôle de capitaine, vu qu'il est très humble, on l'aura compris, il a du mal à en parler encore ?
Oui, il aime pas beaucoup se mettre sur le devant de la scène, et j'allais dire, c'est quelqu'un de très attachant, bon, par son histoire, mais aussi par cette réserve, par cette humilité, par cette simplicité, en fait, qui, qu'il incarne, Charles Olivon, c'est pas quelqu'un qui aime parler de lui, c'est pas quelqu'un qui aime les micros, paradoxalement, et les caméras, même si en ce moment il en voit beaucoup, mais de par sa nouvelle fonction. Mais c'est pas quelqu'un qui aime beaucoup ça. Il se prête au jeu, mais lui, il aime être avec ses copains, en fait, comme à Saint-Pé, comme il a pu l'être à 5 ans. On sent qu'il aime ça aussi en équipe de France, qu'il aimerait retrouver un esprit club, un esprit groupe de potes. Et c'est quelque chose qu'il peut amener à cette équipe de France de par son caractère.
Et d'une certaine manière, il ressemble en ça aux deux derniers, pour ne citer que Thierry Dussautoir et Guillaume Guirado, qui étaient aussi des hommes et des joueurs réservés, ne se mettant pas en avant. Et ma foi, c'est aussi sans doute l'une des qualités d'un capitaine.
On est ravi d'avoir pu l'entendre en longueur, en tout cas Charles Olivon, le nouveau capitaine des Bleus. On espère que ça vous a plu. C'était le premier podcast rugby. Il y en aura d'autres. On est ravi de pouvoir partager ça avec vous, des belles histoires, des témoignages. Ce sera toujours disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur MyCanal. On vous souhaite déjà, on vous remercie Arthur Bourdeau de nous avoir amené ce témoignage.
Plaisir.
Merci Eric pour cet éclairage et on vous souhaite une bonne fin de journée.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.